about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Littérature.
Arnaud Laporte.
Autour de moi, ce soir, Raphaël Deris, Clémence Poletti, Grégoire Leménager, pour parler ensemble de « Et toujours en l'été ». Je ne chanterai pas, mais l'envie est très très forte. C'est le titre du livre de Julie Wolkenstein chez POL, « Le pays des autres » de Leila Slimani chez Gallimard, et puis un livre en édition de poche, comme nous voulons le faire toutes les semaines, « Le discours » de Fabrice Caro chez Folio. Il y aura également un coup de cœur de Raphaël Deris pour « Jetez-moi aux chiens ». Patrick McGuinness chez Grasset. Nous ouvrons cette dispute avec Et toujours en l'été, Julie Wolkenstein, l'autrice dont on suit, et on est nombreux à le faire depuis longtemps, le travail. On a débattu ici autour de ses livres Adèle et moi en 2013, Les vacances en 2017, il y en a eu d'autres hein, entre-temps. Pour ce nouveau roman, récit, on verra, on en parlera, Julie Wolkenstein nous invite à découvrir une maison qui recèle quantité de souvenirs et de fantômes, un peu à la manière des maisons des Escape Games. Mais qu'est-ce qu'un escape game ? La romancière nous l'explique dans le premier chapitre malicieusement intitulé « Tutoriel ». On va entendre un extrait de ce premier chapitre lu par Lola Schindler.
Je ne suis pas experte en escape game. C'est, en gros, une variante particulière de jeux vidéo, d'aventure graphique. Et je commettrai peut-être des fautes en présentant ce que j'en ai retenu. Confondrait certains des principes exposés ici avec ceux d'autres jeux, différents aux yeux des puristes. Bref, je simplifie. Vous entrez dans une pièce, plus ou moins familière, une cuisine ou une salle des machines. Selon l'univers virtuel dans lequel vous projette le jeu, un laboratoire, un observatoire, une centrale électrique, une bibliothèque, un hangar à bateaux, un ascenseur, une chambre à coucher, etc. Vous devez l'explorer sous tous les angles. Vous pouvez activer certains éléments du jeu en cliquant dessus. Dans la plupart des jeux, lorsque animé par votre souris, la petite flèche balaye l'écran, les éléments du décor sur lesquels vous pouvez agir, et seulement ceux-là, se signalent par une légère phosphorescence. Lorsque c'est une porte, d'armoire, ou donnant sur une autre pièce, un autre espace, parfois un autre temps, en général, vous n'arrivez pas à l'ouvrir. Vous entendez un grincement, le battant résiste, il vous faut trouver une clé. Parfois, pourtant, le tiroir d'un meuble cède. À l'intérieur, d'un clic, vous vous appropriez un objet. Pas une clé, ce serait trop facile. Plutôt une bobine de fil, ou une petite boule de verre enneigée. Un truc, en tout cas, dont vous ne voyez pas immédiatement à quoi il pourrait vous servir. Vous le rangez dans votre inventaire. Votre inventaire devient, au fil de votre exploration, une liste hétérogène d'objets matérialisés à votre gré sur l'écran, à gauche ou en dessous de l'image principale, c'est-à-dire de l'espace que vous explorez, et dont vous pouvez utiliser certains éléments, séparément ou ensemble, une ou plusieurs fois, une clé, ou une clé reconstituée à partir d'un écrou ou d'un tire-bouchon, ne sert d'ordinaire qu'une fois et disparaît donc de votre inventaire, alors qu'une boîte d'allumettes y restera et resservira. Le but de ces jeux consiste à sortir d'une pièce pour en explorer une autre. Les plus scénarisés finissent, pièce après pièce, indice après indice, par raconter une histoire. Policière, fantastique, comique, ou les trois à la fois.
Raphaël Deris, elle a envie de chanter Nino Ferrer, je crois.
Entre autres.
Tout de suite. Non, vous avez, vous renverrez nos auditrices et auditeurs vers la liste qu'on peut trouver sur une plateforme d'écoute en ligne où Julie Wolkenstein indique tous ses titres. Mais moi, ce que je vous demande dans un premier temps, c'est un premier avis synthétique que vous développerez ensuite, Raphaël.
Eh bien, sous la pudeur de sa forme divertissante et sous l'humour pince en rire de l'auteur dont on a entendu quelques extraits ici, c'est un livre d'une profondeur bouleversante.
Grégoire Leménager.
C'est l'histoire d'une maison hantée, et pas seulement par le fantôme de Georges Perec, mais quand même un peu.
Et Clémence Pouletti.
Une douce nostalgie du lieu et puis un livre comme une autre chanson, Tout à ton odeur d'Alex Baupin.
Ah, ça c'est votre... Allez, Grégoire, défoncez-moi l'oreille en touchant votre micro.
Pardon.
Comme ça, en plein direct. Il n'est pas avec nous, Grégoire, depuis tout à l'heure, avant l'émission, déjà, je sentais bien qu'il n'était pas sur le coup aujourd'hui. Vous attendrez, mon cher Grégoire, et votre micro est bien placé. Pour l'instant, si j'arrive à entendre quelque chose pour continuer cette émission, où est-ce qu'on en a été ? Alex Baupin, votre chouchou.
Oui.
Ah, ça y est. Le choc traumatique dans mon oreille m'a fait un peu divaguer. Raphaël Léris va développer ce propos, évidemment, qui était forcément réduit, le premier.
Grégoire évoquait le fantôme de Pérec, c'est donc la tentative d'épuisement d'un lieu Saint-Péret, Saint-Père, qui est donc le lieu dans la Manche dans lequel la famille de Julie Wolkenstein passe ses vacances depuis des années et des années. La maison a été acquise en 72 ou 73, ça n'est toujours pas très clair. Alors, je voudrais dire que moi, je n'ai aucune capacité d'abstraction géographique, c'est-à-dire qu'on me décrit quelque chose, je ne comprends pas forcément ce que ça signifie.
C'est pas un handicap dans votre métier.
ça sera un handicap si j'étais architecte. Ça va. Enfin,
est-ce
peut-être
que
oui.
Vous promenez quand vous lisez les livres.
Nous en parlerons par la suite.
C'est intéressant. C'est intéressant.
Et je n'ai aucun goût particulier pour le jeu, puisque ça peut faire un petit peu peur cette histoire d'escape game. Mais sauf que le jeu, Julie Wolkenstein l'entend au sens le plus général du terme, tout est jeu dans cette maison, dans ce texte. Et il y a ce « vous » qu'on a pu entendre dans le tutoriel qu'elle maintient tout au long de l'ouvrage, qui est une manière de nous diriger d'une main ferme et un petit peu pince sans rire, et assez charmante. En ce qui me concerne, je dois dire, un peu irrésistible. Et donc, on va voir les pièces, les changements qui s'y sont opérés au fil des époques. Par exemple, l'ancienne salle de ping-pong qui est devenue une bibliothèque, puis une boîte de nuit où danser, puisqu'on danse énormément. Et moi, ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai...
Là, danser, il y a du monde.
Ça. Tout à fait. Et pourquoi pas déguisé en babouin.
Oui.
Car c'est très important, le déguisement de babouin jusqu'à la fin. Il y a la cuisine qui est toujours trop petite pour les tablés qui sont larges à rassasier. Il y a le bureau où il est rare de pouvoir travailler parce qu'il y a des parties de Monopoly, de Mahjong, parce qu'on ne peut pas toujours être dehors car c'est la Normandie. Et oui. Et donc, il y a cette structure ludique de l'escape game qui nimbe de gaieté de ce livre qui est hanté donc pas seulement par Pérec, mais aussi par le père et le frère de l'auteur qui sont morts récemment. On pourrait en faire un résumé extrêmement sinistre de ce livre qui serait « J'ai arrêté d'aimer la maison un peu après la mort de mon père, puis de mon frère. » Et aussi, c'est un autre fantôme discret du texte, mais réel, qui est la mort de son éditeur, Paul Tchaïkovski-Laurence, qui est mort deux mois après son frère. Et elle ne raconte pas du tout un retour à la vie, mais une espèce de consolation dans la vie vécue avec les morts et comment on vit réellement avec ces objets-là. C'est un livre d'amour et de deuil qui m'a profondément bouleversée et réjouie.
Grégoire Leménager.
Oui, c'est très amusant.
c'est pas là-dessus qu'elle a conclu. Hein.
Mais c'est pour ça qu'il faut le rappeler, parce que c'est quand même d'abord amusant, en tout cas quand on commence le livre, c'est amusant. C'est très élégant aussi, c'est très tenu, c'est très maîtrisé, et puis il y a des moments où on commence à s'ennuyer un petit peu dans la description de la rampe de l'escalier et de la paire de bottes qui traînent dans l'entrée. Et paf, c'est à ce moment-là, à chaque fois qu'on commence à s'ennuyer, c'est à ce moment-là qu'elle nous cueille avec d'un petit revers de phrase comme ça, une évocation à laquelle on s'attendait plus à ce moment-là, de la mort de son frère et du vide que ça a laissé, de la mort de son père, etc. Donc elle a une façon quand même de distiller sa mélancolie comme ça dans cette structure ludique de l'escape game qui lui permet de régénérer cette forme un peu péréquienne d'épuisement d'un lieu, de description d'une maison et tout ça, qui est à la fois très digne et très effectivement très très efficace, si j'ose dire, pour nous faire partager cette émotion là après tout. Bon, il y a plein de gens qui ont perdu un frère ou un père et on n'est pas, enfin, on se sent pas forcément ému par leur détresse. Enfin, pas de cette manière-là. Et elle nous fait partager ça. Et c'est vrai que c'est très beau. Par ailleurs, moi, je trouve qu'elle parle très bien de la petite humidité qu'il peut y avoir en Normandie,
légère,
de ce que peut devenir une maison en Normandie quand elle, quand elle a abrité des rires, des moments de rigolade, de joie, de fête, et que elle est un peu vide, et que les gens sont partis, et que certains ne reviendront plus jamais. Je trouve qu'elle en parle vraiment très très bien de ça. Et puis enfin, il y a un lien qu'elle établit de manière subliminale, un peu, mais qui court un peu partout quand même, entre son rapport à cette maison et son rapport à la littérature. Mmh. Elle dit bien que c'est là qu'elle a lu sans doute le plus de livres dans sa vie, que son père, qui était écrivain, venait, enfin, et que c'est là qu'elle a caché aussi le manuscrit de son premier roman. Enfin, donc tout ça court à l'arrière-plan de la description de la maison et en fait beaucoup plus que la description d'une maison.
Clémence Pourlitti, sur ce livre de Julie Wolkenstein, Est toujours en été.
Alors, j'aime particulièrement ces livres qui utilisent le lieu comme un protagoniste. Et j'aime cette description, j'aime la description du lieu. J'ai pensé à Agnès Riva, qui a écrit Géographie d'un adultère, et une nouvelle qui, pareil, utilise les lieux comme des personnages de romans. Et c'est un procédé qui me touche particulièrement. Ici aussi, j'ai aimé cela, seulement je me suis un petit peu lassée, moi, du procédé, et je me suis un peu lassée de cet escape game, surtout que cette utilisation donne lieu à de nombreuses répétitions, et il y a un moment où, oui, ça m'a un petit peu ennuyée, mais comme vous le disiez, Grégoire, elle arrive à soudainement nous cueillir, c'est exactement le verbe que je cherchais, en nous décrivant soudainement un souvenir, et ces souvenirs sont précieux et toujours élégants. Je suis très touchée par cette idée de la nostalgie, mais de la nostalgie qui est douce. En fait, c'est une nostalgie qui n'est pas altérée par la tristesse ni le chagrin, parce que elle est sans arrêt compensée par un présent qui, lui, est tout à fait amusant. Il est compensé par la présence des enfants qui, à leur tour, en 2017, rient à nouveau entre ces murs. Et puis, j'ai aussi pensé à Je ne retrouve personne d'Arnaud Catrine, qui, lui aussi, raconte l'histoire d'un narrateur qui retourne dans sa maison d'enfance en Normandie. Et cette similarité m'a plu, cette similitude m'a plu. J'ai été très touchée, très émue souvent, notamment quand elle parle de son père et de son frère. Et puis j'ai, comme je le disais en exergue, beaucoup pensé à cette chanson d'Alex Baupin, parce que je suis touchée par l'idée que les lieux que dans lesquels nous vivons sont sans arrêt empreints du souvenir de ceux que nous côtoyons. J'aime l'idée de personnes qui deviennent des fantômes des souvenirs dans un espace, et cette analyse à la fois spatio-temporelle et familiale et sociologique me touche particulièrement.
Je m'interrogeais tout à l'heure sur le genre que l'on pourrait donner à ce texte de Julie Wolkenstein. Rien n'est indiqué, ni roman, ni récit.
Oui.
Ni, et je crois que c'est en fait pas plus mal. Ah, c'est marqué dedans.
Moi, j'ai roman. Ah, bah sur les épreuves du mois de novembre. Alors.
Ça a disparu sur le livre réel.
Souvent, il n'y a pas de...
On peut
pas regarder. De remarques.
Il y en a quand même assez souvent.
On fera des statistiques, un Google Doc.
Parce que, voilà. Vous ferez ça ce soir en rentrant chez vous. Ce sera votre punition pour m'avoir détruit l'oreille droite. Je pense qu'en l'occurrence, c'est plutôt pas une mauvaise chose. Comme Clémence Pouletti, moi, l'escape game, je trouvais ça un peu. Bon, la construction était parfois un peu trop. On sentait un peu trop les armatures et la fabrication, ce que je trouvais un peu dommage. En même temps, bon, voilà, un prétexte comme un autre, pourquoi pas. On peut avoir cette intuition là au départ et construire le livre dessus, parce qu'il faut bien parfois peut-être s'appuyer. C'était peut-être nécessaire pour elle, en tout cas, dans cette exploration. Moi, j'aime la délicatesse de l'écriture toujours de Julie Wolkenstein. Je peux pas dire que ce soit le livre qui m'est le plus ému ou touché de ce qu'elle a pu écrire et que j'ai lu. J'en ai lu quand même un certain nombre. Et je pense qu'il y a peut-être un nécessaire ou évident manque de distance pour moi qui fait que l'émotion est peut-être pas toujours là où elle pouvait me faire ressentir des choses fortes, alors que par le biais du roman, justement, Julie Wolkenstein est arrivée souvent à beaucoup plus me cueillir qu'ici. Mais voilà, ce sont des réserves, parce qu'après ce premier tour de table extrêmement laudateur, il fallait bien que j'ai le mauvais rôle. Moi encore, Clémence Pouletti.
Oui, je voulais simplement ajouter, c'est amusant que vous parliez de nécessité, parce que moi je l'ai ressenti dans son écriture. Je pense qu'il était nécessaire pour elle d'exprimer ces émotions-là à cet instant précis.
Absolument.
Et dans ce lieu. C'est une lecture qui, moi, m'a aussi touchée, parce que je n'ai pas de maison de vacances, je ne connais pas cette idée-là.
Moi non plus, doit être jaloux. Peut-être
c'est
ça aussi qui m'a empêché d'apprécier tout à fait.
De jalousie, oui. Souvent déjà, enfant, je jalousais un petit peu les amis qui avaient cette maison, cette résidence secondaire à la mer. Et ces souvenirs, par contre, j'ai complètement ressenti cette humilité qui peut y avoir. Je l'ai vécu par procuration finalement. Et ça m'a fait du bien.
Raphaël Héris.
Alors, à titre déclaratif, je n'ai moi-même pas de maison familiale. Mais par ailleurs, cette maison-là, elle existe très profondément dans mon esprit depuis que j'ai lu Adèle et moi, depuis la fin des vacances, les 30 dernières pages s'y passaient, et ayant en tête Adèle et moi, j'ai une image très précise. Ouais. C'est un lieu.
Là, vous arrivez, il faut trois livres, vous arrivez à vous situer dans l'espace.
Peut-être pas à me situer, mais en tout cas à être attaché à cet endroit. Déjà, je trouve que c'est formidable d'être un écrivain qui est capable d'attacher des lecteurs qui n'ont aucun lien particulier avec elle. Enfin, vous voyez, je suis très admirative de Bertrand Porro-Delpech, qui était son père, qui était feuilletoniste au Monde, un très grand critique, qui était académicien également. Et j'aime beaucoup les textes de Judith Wolgenstein, mais c'est quand même très étonnant de réussir à imposer son univers à ce point-là physiquement. Sur la question de la structure de l'escape game et du caractère répétitif, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand vous en parliez, on peut parfois trouver qu'on s'ennuie un petit peu, etc. Il n'y a pas seulement une torsion qui passe par un souvenir, ça peut être justement le jeu de l'escape game qui lui permet une pirouette du type prenez ce plateau spaghetti et n'oubliez pas que dans un escape game, ça peut vous servir de perruque. Et il y a une espèce d'inventivité chez elle qui moi m'émeut beaucoup parce que elle est couplée avec elle couple la mélancolie, la drôlerie, une élégance dans la manière de refuser le pathos à laquelle je suis extrêmement sensible. Et puis elle a aussi une manière de coupler les grandes références littéraires l'Acacia de Claude Simon qui est aussi là en arrière-plan et cette playlist de la radio nostalgique je suis obligée de citer parce que c'est quand même structurel. Ouais. Voilà, vous parlez d'Alex Baupin, on est très très au-dessus du quotidien, comme un ouragan par exemple
qui est votre chanson préférée.
Comme un ouragan qui est la chanson préférée d'Alex Baupin.
Ah oui.
Tout ça se boucle. Grégoire Leménager, vous avez une maison familiale? Parce que là, il n'y a pas de raison que vous échappiez à la question.
C'est pas une maison de vacances, mais je trouve que c'est la maison où j'ai grandi quand j'étais enfant. Et oui, et j'y vais pendant mes vacances. Mais pour le coup, elle parle bien du fait qu'une maison peut être un fardeau, peut être un cimetière de souvenirs. Enfin, il y a quand même quelque chose de... Moi, j'ai pensé un peu à certaines pages du roman de Jean-Paul Dubois qui avait précédé le prix Goncourt, qui s'appelait...
La Succession,
voilà. Où la maison était une sorte de personnage principal, ça aussi.
Et qui n'était pas facile.
La
maison est très souvent un personnage principal chez Jean-Paul Dubois, par ailleurs.
Très souvent. Mais elle en parle bien, je trouve, de ce lien très, très viscéral qu'on finit par avoir avec un lieu qui, par ailleurs, est encombrant, qui, par ailleurs, n'est pas toujours très accueillant, qui, par ailleurs, peut rappeler des mauvais souvenirs aussi. Et il y a quelque chose de très dépressif dans le livre. Et pour le coup, cette forme de dépression, elle l'explicite par moments. Il y a un moment où elle dit sans doute parce que j'écris ce livre pour me sortir d'une autre sorte de cage, de prison où m'enfermait la crainte de ne plus aimer écrire ni cette maison, avec ce lien très étroit entre l'écriture et la littérature et la maison que j'évoquais tout à l'heure. Et cette dépression, de temps en temps, elle l'explicite, mais globalement, elle imprègne le livre et elle lui donne une forme qui est élégante, qui est malicieuse, mais c'est un livre qui est amusant. Il y a des moments où on s'amuse, mais c'est vrai que c'est pas la grande rigolade parce que c'est toujours un sourire qui est un peu triste.
Oui, mais on sent bien, et c'est peut-être la réussite ultime pour elle de ce livre, c'est que la dépression, elle est restée dans le livre. Ouais, c'est le sentiment qu'on a aux dernières pages et aux dernières lignes de ce livre, qu'on ne divulguera évidemment pas, mais il y a quelque chose la nécessité, Clémence Poletti, d'avoir écrit ce livre pour elle. Je pense que c'était non seulement une nécessité, mais qu'en plus, ça, sans doute, espérons-le, encore une fois pour elle, fonctionner comme ça fonctionnera sur un certain nombre de ses lecteurs et lectrices. Nous parlions de « Et toujours en été » de Julie Wolgenstein, publié chez POL. Et puis, comme vous parlez de Jean-Paul Dubois, j'en profite. Si vous pensez que il faut pas lire les prix Goncourt, parce que les prix Goncourt, c'est pas bien, ça fait longtemps qu'on ne vous l'avait pas dit. Lisez Jean-Paul Dubois, lisez tous ses livres, et notamment celui qui a eu le prix Goncourt, parce que je pense qu'il n'en a pas vendu assez encore. Enfin, pas à mon goût. Quand on sera à 2 millions d'exemplaires, j'arrêterai. À suivre dans la dispute, Le pays des autres de Leïla Slimani, le discours de Fabrice Caro, Jetez-moi au chien de Patrick McGuinness.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute littéraire avec Le pays des autres de Leïla Slimani, publié chez Gallimard, un livre dans lequel nous allons suivre Mathilde, une jeune Alsacienne tombée amoureuse d'un combattant marocain à la fin de la guerre et qui veut partir s'installer avec lui au Maroc.
Ici, c'est comme ça. Cette phrase, elle l'entendrait souvent. À cet instant précis, elle comprit qu'elle était une étrangère, une femme, une épouse, un être à la merci des autres. Amine était sur son territoire à présent. C'était lui qui expliquait les règles, qui disait la marche à suivre, qui traçait les frontières de la pudeur, de la honte et de la bienséance. En Alsace, pendant la guerre, il était un étranger, un homme de passage qui devait se faire discret. Lorsqu'elle l'avait rencontré durant l'automne 1944, elle lui avait servi de guide et de protectrice. Le régiment d'Amine était stationné dans son bourg, à quelques kilomètres de Mulhouse, et ils avaient dû attendre pendant des jours des ordres pour avancer vers l'est. De toutes les filles qui encerclèrent la Jeep, le jour de leur arrivée, Mathilde était la plus grande. Elle avait des épaules larges et des mollets de jeune garçon. Son regard était vert comme l'eau des fontaines de Meknès, et elle ne quitta pas Amine des yeux. Pendant la longue semaine qu'il passa au village, elle l'accompagna en promenade, elle lui présenta ses amis et elle lui apprit des jeux de cartes. Il faisait bien une tête de moins qu'elle et il avait la peau la plus sombre qu'on puisse imaginer. Il était tellement beau qu'elle avait peur qu'on le lui prenne, peur qu'il soit une illusion. Jamais elle n'avait ressenti ça, ni avec le professeur de piano quand elle avait 14 ans, ni avec son cousin Alain qui mettait sa main sous sa robe et volait pour elle des cerises au bord du Rhin. Mais arrivée ici, sur sa terre à lui, elle se sentit démunie.
Et un premier tour de table sur ce nouveau roman de Leïla Slimani, Grégoire Leménager.
Je trouve que c'est un excellent antidote au grand manichéisme, au grand retour du manichéisme là, qu'on observe de nos jours. Et au passage, c'est la preuve qu'il est possible de faire du neuf avec du vieux quand on a du talent. Et je crois que Leïla Slimani, décidément, en a.
Clémence Pouletti.
Non, un roman.
Ah, ça commence bien.
Un roman au thème si profond, grave et contemporain qu'on ne peut pas ne pas dire qu'on ne l'aime pas, finalement.
Mais vous le direz quand même, peut-être. je vais prolonger votre phrase. Non, vous la prolongerez vous-même dans un instant. Raphaël Léris.
Eh bien, avoir autant d'ambition et réussir son texte, moi, je trouve ça assez impressionnant.
Bon. On va voir si la partie est équilibrée ou pas. J'interviendrai plus tard. Grégoire Leménager va nous dire pourquoi il aime tant ce livre de Leïla Slimani, qu'il a longuement rencontré pour l'Obs.
Oui, je l'ai longuement rencontré parce que c'est quelqu'un d'intelligent d'abord, donc ça fait du bien d'entendre parler quelqu'un d'intelligent. C'est un écrivain qui parle bien, c'est pas si fréquent. On avait fini par penser d'ailleurs que ce n'était qu'un écrivain qui parle bien, parce que son concours c'était quand même il y a 4 ans. Des romans, elle n'en avait publié que deux, un en 2014 je crois, qui s'appelait Dans le jardin de l'ogre, où elle racontait la descente aux enfers d'une nymphomane. Moi j'avais trouvé ça très très bien à l'époque. Je craignais le porno chic qui cherche à faire de la provocation avec des vieilles recettes, et en fait c'était vraiment extrêmement maîtrisé et très prometteur. Elle a confirmé ça avec Chanson douce en 2016, le prix Goncourt, qui a eu un succès phénoménal, qui a été traduit partout, et puis comme elle parle bien, elle était invitée à parler, donc depuis 4 ans elle parle, elle est invitée partout. Une sorte d'essai document, enfin qui est une collection d'histoires arrivées principalement à des femmes au Maroc, qui est une sorte de plaidoyer aussi pour que soit abolie au Maroc la loi qui interdit les relations sexuelles en mariage. Donc elle est très engagée, elle est très féministe, elle s'exprime également sur les questions environnementales, sur le sort des migrants, etc. Elle a un discours qui est très clair, qui est très cohérent, qui est très rassembleur aussi, elle ne bascule pas dans les provocations inutiles. Et tout ça fait que le phénomène Slimani, qui voyage dans le monde entier, qui par ailleurs est quelqu'un de photogénique, ça joue aussi, tout ça, ça en fait une sorte de star, star, de rockstar, au-delà de... et on avait fini par oublier que c'était un écrivain. Et je trouve que avec ce livre, elle remet son talent en jeu et elle le remet en changeant de braquet, en faisant autre chose. Elle faisait des romans qui étaient très resserrés, très très verrouillés, parfaitement construits et très contemporains et très français. Et là, elle nous emmène dans le Maroc de l'immédiate après-guerre. Pour faire une sorte de grande saga familiale, une sorte d'Autant en emporte-le-vent marocain à l'époque de la fin de la colonisation. Et au début, on se dit bon, tout ça est un peu vieux, quoi. Il y a quelque chose d'un peu classique, peut-être même d'académique dans cette manière de raconter, qui est d'un point de vue narratif très basique, récit à la troisième personne, avec une alternance bien dosée de descriptions, de portraits et de narrations. Enfin, tout ça avec des phrases assez courtes. Un vocabulaire compréhensible par tout le monde et on se dit qu'on risque de s'ennuyer. En fait, très très vite, je trouve que ça prend extrêmement bien parce qu'elle colle au plus près des personnages, des sensations des personnages, de ce qu'ils ont dans la tête, de leur intimité. L'histoire avec un grand H, elle est en toile de fond et on l'aperçoit et on voit que le Maroc est en train de bouger, que ça bouge, mais elle fait jamais un roman à thèse sur la colonisation. Elle me raconte dans l'entretien, elle me dit la colonisation, c'est pour un romancier, c'est le quotidien des gens. Et le romancier, il n'est pas là pour dire qui avait raison, qui avait tort, c'est au lecteur de se débrouiller avec ça. Et le romancier est là pour coller au quotidien des gens et à leurs hésitations, à leurs doutes, en fonction d'informations que nous, aujourd'hui, on a, mais qu'eux n'avaient pas forcément au moment où avaient lieu certains événements. Et elle fait ça très très bien. Donc voilà, en nous racontant l'histoire d'un couple, mais je vais passer la parole à quelqu'un d'autre pour parler de ce couple qui est atypique, qui est hors norme, comme explique Benjamin Stora dans l'Obs.
Bon, elle voudra peut-être parler d'autre chose, Clémence Pouletti, peut-être développer davantage son premier point de vue qui semblait dire qu'on ne pouvait ne pas aimer, mais...
Non mais...
J'ai entendu mais...
C'est-à-dire que j'aime beaucoup le personnage de Mathilde. Mathilde, qui est donc le personnage principal de cette histoire, qui est une jeune fille, d'abord une toute jeune fille, complètement éprise d'une immense liberté. Elle a un besoin d'indépendance et sensuelle et sexuelle et géographique. C'est une décision très courageuse et en même temps très puérile que de quitter son environnement, son entourage uniquement par jalousie de sa sœur Irène, par une envie de faire mieux que les autres, par une envie de... Oui, de liberté. Et c'est un très beau personnage, très fort, très grand. Et je l'aime beaucoup, Mathilde. Et j'aime beaucoup ses enfants et la petite Aïcha qui a en elle, dès les toutes premières années de sa vie, ces deux cultures qui coulent dans son sang. Et puis, cette rage, cette colère et cette honte qu'elle va donc trimballer. Et j'ai hâte de lire la suite de la saga.
On nous annonce une trilogie.
Oui, c'est ça, une trilogie. C'est le premier livre
de 49 à nos jours.
Donc oui, en soi, c'est vrai, je ne m'ennuie pas en le lisant. Je trouve que c'est un livre important. Il raconte une histoire que l'on sait sans savoir, mais qu'il est toujours important de rappeler, même si effectivement la parole se libère et que les écrits également, et qu'on connaît ces histoires sans peut-être autant s'y pencher. Et puis, je pense aussi que effectivement, Leila Slimani est une figure médiatique, elle est importante, et le fait qu'elle soit si connue, bah, je pense que ça va donner envie de lire cette histoire à des gens qui ne se penchaient pas à ce type de roman ou à ce type d'histoire. Donc oui, je pense que c'est important. Maintenant, c'est vrai que en fait, j'ai trouvé que c'était si contemporain, qu'il reprenait tant de grands thèmes du moment, entre guillemets. Je dis ça aussi pour contrebalancer. Il y a un moment, je me suis dit, bah oui, mais en même temps, c'est un livre dont on ne peut pas dire du mal, c'est un livre qu'on ne peut pas critiquer, c'est un livre qui est justement manichéen, dans le sens où, je ne sais pas comment dire, il y a le bien, le mal, et je pense qu'on fait partie du camp des mauvais si on n'apprécie pas ce livre, ou du moins si on ne l'érige pas au rang de classique, parce que...
un peu grand comme mot.
Comment, oui.
On n'est pas là. Hein.
Enfin, non, mais
je laisse l'histoire juger.
Je dis ça par rapport au battement médiatique. On n'entend parler que de ce livre depuis la semaine dernière. Et voilà, moi j'étais, c'est vrai que je m'attendais peut-être à aimer plus fort. Je n'ai pas eu le coup de cœur souhaité, escompté.
Raphaël Léris.
Alors moi, je ne faisais pas partie du fan club de Leïla Slimani sur ses deux premiers romans que je trouvais efficaces, mais dans une langue qui ne me frappait pas par sa subtilité, disons. Et puis, j'ai été d'autant plus surprise par le fait d'aimer ce texte que le phénomène qui s'est produit autour d'elle n'a pas généralement comme tendance de pousser les gens à travailler plus. Or, il me semble que c'est un ouvrage où non seulement elle va ailleurs, mais en plus, on sent un travail important et du côté de la documentation, mais surtout du côté de la fluidité de l'écriture, de quelque chose de plus sensuel dans l'appréhension des paysages, des arbres, du vent, toutes ces choses qui comptent beaucoup dans le texte, parce qu'il y a ces personnages, j'aime vraiment beaucoup, moi aussi Mathilde et Aïcha, mais aussi des personnages plus secondaires, comme la sœur d'Amine, Selma, ou le docteur, le gynécologue hongrois qui s'est réfugié au Maroc. Enfin, voilà, donc je trouve qu'il y a quelque chose sur et les lieux et l'atmosphère et les êtres qui est très cohérent et très intéressant. Et puis alors, j'entends très bien ce que vous dites sur le fait que c'est trop dans l'air d'un torrent, parce qu'il y a la question de la domination qui est de toutes parts. Mais d'abord, c'est ce qu'elle faisait dans les deux premiers romans, c'est-à-dire de voir comment ça fonctionne la domination, sauf que ce qu'elle fait, c'est de voir comment ça fonctionne la domination de manière plus ambiguë que les hommes dominent les femmes, même si évidemment c'est le sujet, le fait, elle parle de la manière dont les Français exercent leur domination sur les Marocains, et dont les femmes sont les éternelles dominées de tout le monde, sauf que comme elle explore la sphère publique, la sphère privée et la sphère sexuelle, c'est aussi intéressant la manière dont elle regarde la manière dont ça se joue à l'intérieur des couples, la question de la domination. Donc je vois très bien pourquoi vous pouvez trouver que c'est un peu dans l'air du temps. Après, la question de la domination, j'ai bien peur que ça soit un sujet universel.
Ah oui, oui, complètement. Non, mais oui. Oui, non, mais oui, je comprends ce que vous voulez dire. Et c'est simplement pour dire que je ne sais pas comment dire, comment émettre une réserve. En vérité.
Bon, vous le faites
voilà.
Très bien.
Non, mais voilà. Et
bien, vous avez trouvé ce livre éprouvant, nous avons bien compris.
Je peux me mettre dans le camp des méchants ou pas?
Non,
j'en brûle pas, parce que je ne brûle pas du tout en lisant Le Pays des Autres. Hein. Enfin, avec tout le respect dû à Leïla Slimani, à son rang, et elle a son rond de serviette dans ses studios de France Culture, donc et on est très heureux de l'entendre et qu'elle participe à la vie. Et au débat public, moi, c'est la pauvreté de l'écriture qui fait que je ne prends pas de plaisir. Enfin, ça, je trouve évidemment le sujet intéressant, je trouve évidemment les problématiques intéressantes, mais devant un livre qui est quand même pas... Hein, ça fait quand même 350 pages, si j'ai pas un plaisir de la phrase, de la langue, ma patience a quand même des limites, et c'est pour moi, du coup, une lecture laborieuse, alors quand je pense que c'est une trilogie qui s'annonce. Alors peut-être que... la voix changera, VOX, avec les années, mais parce qu'elle est très habile, Leïla Slimani. C'est un peu le problème que j'ai depuis le début, c'est que c'est tellement bien fait. Moi, je ne la vois pas du tout se lâcher ou être plus ambitieuse. Elle est très ambitieuse et elle a raison de l'être. Vive les écrivains et vive les artistes ambitieux. Mais pour moi, tout ça est encore très, très balisé et sans flamme, en tout cas, pour moi. Grégoire Léménager.
Ben oui et non. Je trouve que j'entends
déjà,
très,
y a un peu de oui,
j'entends très m'étonne. Bien ce que vous dites. C'est le chanson douce avait un côté parfait avec une espèce d'horlogerie parfaitement huilée. Chaque pièce était à sa place et tout ça. Là, c'est un peu moins le cas. Pour
c'est une grosse horloge. Hein.
C'est une grosse horloge.
Livre,
ah, mais évidemment,
grosse horloge. Évidemment, les pièces sont.
Il y a son savoir-faire, il y a son intelligence, il y a tout ça. Évidemment. Après, il y a aussi plus d'air dans le livre quand même. Il y a des passages qui servent à rien. Il y a des descriptions qu'elle aurait pu raccourcir, qu'elle aurait pu rallonger. Je suis pas sûr.
Même ça, vous voyez, je me dis bon, pas par hasard. Non, mais ça ne sert à rien parce que c'est là pour qu'on dise que ça ne sert à rien.
Il y a une.
Vous voyez.
Là, vous êtes tordu là.
Ben oui, voilà, je suis tordu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on s'ennuie en lisant, on se pose des questions comme celle-ci.
Et sur la sensualité,
est-ce qu'elle vous en fait personnellement?
Sur la sensualité des odeurs, des paysages et tout ça, je suis pas sûr qu'elle soit toute tout à fait qu'elle réussisse complètement son pari de ce point de vue-là. Elle essaye quelque chose, et ça va dans le bon sens, mais effectivement, son écriture reste un peu sèche, je trouve, pour vraiment nous faire ressentir de l'ambiance du Maroc de cette époque-là. Mais en revanche, là où elle est très forte, c'est vraiment pour coller à l'intériorité de ses personnages, et sur ces questions de domination, qui sont effectivement des questions extrêmement à la mode, elle nous parle de...
Importante.
Elle nous parle oui. Elle est très, très maligne, parce que ce couple, il est très intéressant, parce que la domination, le couple reproduit l'inverse de la domination coloniale. C'est-à-dire que là, c'est le colonisé qui est marié. Ben oui.
Bah oui, mais bon, c'est un peu gros quand même.
C'est un peu gros comme situation de départ, mais après, elle en tire plein de choses tout au long du livre. Et c'est bien. Et par ailleurs, il y a de la domination, à la différence de beaucoup de discours qu'on entend aujourd'hui sur la domination, avec du bourdieu quelquefois mal digéré. Là, il y a de la domination dans tous les sens. C'est-à-dire que chaque personnage en domine un autre. Il n'y a pas de personnage tout blanc, il n'y a pas de personnage tout noir. Et ça, je trouve qu'elle le fait bien. Et c'est la matière même du romanesque. Et ça donne un roman qui est lisible par à peu près tout le monde, qui est intelligent, qui est très bien fait, qui est très bien narré. Je trouve que ça serait dommage de le déconseiller comme vous essayez de le faire.
Ah, mais j'ai pas déconseillé. Encore une fois, je loue l'ambition de Leila Slimani et je suis tout à fait, je soutiens tout à fait ses tentatives. Donc, vous voyez, je conseille de poursuivre dans cette voie. Non, mais il fallait bien qu'il y ait un méchant, donc visiblement, puisque c'est le terme employé par Clémence Politi, j'étais dans le camp.
C'était
méchants, je sais bien.
Pardon, juste une dernière chose. Elle dit aussi que tous les rapports humains ne se résument pas à de la domination. Et ça fait pas de mal en ce moment de le rappeler. Il y a aussi d'autres sentiments qui peuvent relier des gens.
Nous sommes d'accord.
Oui, et puis, dans le couple entre deux gifles, il rit. Non, mais c'est vrai, ça m'a fait un effet, ça m'a fait de l'effet.
Bon, Le Pays des Autres de Leila Slimani, publié chez Gallimard. C'est l'heure du coup de cœur de Raphaël Léris pour Jetez-moi au chien de Patrick McGuinness, publié chez Grasset. Pourquoi lire ce livre ?
Et traduit magnifiquement par Karine Lalécher. Non, je tiens à le dire, parce que c'est vraiment très...
Si vous ne l'aviez pas dit, j'aurais tapé sur les doigts. Vous savez qu'ici, les traducteurs et traductrices sont très importants.
Très, très importants. Alors au départ de Jetez-moi au chien, il y a un fait divers anglais. Un homme est soupçonné du meurtre de sa voisine. La personnalité de l'accusé, qui est un ancien professeur solitaire avec des goûts supposés élitistes, excite particulièrement les tabloïds, qui trouvent d'anciens élèves prêts à dresser un portrait accablant de lui. Anonymement, et pas toujours gratuitement d'ailleurs. Ouais. Quelques jours plus tard, le véritable assassin est arrêté, l'homme disculpé, il attaquera des publications et obtiendra gain de cause. Alors, donc, il se trouve que cet innocent avait compté parmi ses élèves, 30 ans plus tôt, Patrick McGuinness. Dans une de ces public schools au nom britannique trompeur, puisqu'en fait il s'agit d'écoles privées qui forment la future élite de la nation. Ou en tout cas, supposait-elle. Patrick McGuinness, aujourd'hui, est professeur de littérature à Oxford. Il est également écrivain, auteur d'un merveilleux premier roman qui s'appelle « Les 100 derniers jours » que je ne saurais trop vous conseiller, paru chez Grasset lui aussi. Et donc, cette affaire, qui est célèbre en Grande-Bretagne, puisqu'elle met en évidence le fonctionnement des tabloïds, la primoscoop, même frelatée, le peu d'égard pour la présomption d'innocence, le goût du sang, la capacité à broyer des vies. Cette affaire, donc, lui a inspiré ce deuxième roman, qui est un livre étonnant et puissant, un faux polar, qui prend ses distances et ses libertés avec l'affaire initiale, pour se révéler un très bon roman mélancolique, drôle, qui nous parle de l'état actuel de son pays et de la fabrique de l'opinion, autant que des strates de temps qui fabriquent un être, le tout avec un sens des images et des métaphores renversants, figurez-vous. Voilà, il avance paré des atours du bon vieux roman policier, avec un irrésistible duo de flics mal assortis, c'est quasiment l'arme fatale, puisque j'ai des références de haut niveau.
Oui, oui. On voit ça comme un ouragan, l'arme fatale.
Oui, j'essaye de faire un petit peu baisser le niveau de France Culture.
Il ne vous a pas attendu, vous savez. On nous le reproche assez comme ça.
Voilà, donc il y a Prof, le narrateur, qui est ainsi surnommé par Gary, son adjoint, parce qu'il a étudié la criminologie à la fac. Quelques jours de Noël, ils sont chargés d'enquêter sur l'assassinat d'une femme. La culpabilité du suspect qu'ils ont sous la main, Monsieur Wolfram ne convainc pas Prof, parce que Il ne le dit à personne, mais il a été l'élève, une trentaine d'années plus tôt, de celui qui a été érigé en une poignée d'heures, etc. Ogre, ermite, érudit. Et il ne voit pas comment l'homme qu'il a connu peut s'être métamorphosé en assassin. Donc, il y a une alternance entre ici aujourd'hui dans le récit. Il y a une précision, une beauté dans l'écriture de Patrick McGuinness qui font tenir ensemble tous les aspects du livre. Parce qu'il y a donc l'enquête, mais aussi la méditation, les souvenirs et les HCP contemporaines de prof, avec une vieille dame, avec sa nièce, qui est obsédée par ce qu'il voit à la disparition. La dimension polar du roman, et son jeu avec les codes, qui est très amusant, propulse celui-ci, le fait avancer, mais il tire sa force des autres aspects du texte, qui, plutôt que de le déséquilibrer, lui impulse un autre rythme, lancinant lui. Et donc, je ne saurais trop vous encourager de vous jeter sur Jetez-moi au chien.
Traduit par
Karine Laléchère, chez Grasset.
C'est un titre, un livre de Patrick McGuinness.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Le dernier livre à notre sommaire ce soir est un livre en édition de poche. Nous souhaitons faire chaque semaine une place à un ouvrage qui connaît ainsi une seconde vie, qui peut toucher un plus large public en raison de son prix de vente. On avait un peu oublié ces dernières semaines, voire ces derniers mois, d'inclure des livres de poche dans nos disputes littéraires. C'est très mal. Donc on se reprend, il n'est jamais trop tard pour recommencer à bien faire. Ce soir, c'est le discours de Fabrice Caro chez Folio. Fabrice Caro, on le connaît aussi sous le nom, bien sûr, de Fab Caro, auteur de bandes dessinées, notamment de Zaï 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 Zaï, ou de Moins qu'hier, plus que demain. Nous avions d'ailleurs débattu dans l'hilarité générale autour de cette table. Mais Fabrice Caro, qui est également musicien, on fera peut-être une dispute musique aussi avec lui, a signé deux romans. Le discours, c'est le second. Et c'est celui qui voit le narrateur, qui se voit enjoindre à décrire et de prononcer au mariage de sa sœur un discours, ce qui est pour lui un énorme souci, évidemment. Moins important, cela étant, que la pause. Hein, je mets des guillemets, que sa petite amie Sonia a décrété concernant leur couple. Vous n'y comprenez rien. Bon, c'est un peu normal. On va entendre un court extrait de ce livre de Fabrice Caro, lu par Boris Pinault.
J'ai besoin d'une pause. Voilà ce qu'elle m'avait annoncé un soir, il y a exactement 38 jours, sans préambule, sans autre explication ni justification. Débrouille-toi avec ça. Elle n'avait pas trouvé nécessaire d'en dire plus, comme si on savait très bien, elle et moi, ce qui justifiait ce besoin de pause, comme si toute forme d'explication était superflue, car cette pause était l'aboutissement naturel d'un processus qu'on avait perçu tous les deux. Sauf que non. Je n'avais rien vu venir, la brutalité du message autant que sa formulation lapidaire m'avait giflé. Dans la vraie vie, on ne dit pas « j'ai besoin d'une pause ». Ça ne se fait pas, ce n'est pas inscrit dans les codes sociaux. Lorsqu'on est invité à un repas, par exemple, on ne se lève pas soudain en disant « j'ai besoin d'une pause ». On ne prend pas son impair dans le vestibule et on ne claque pas la porte sans autre explication ni justification que « j'ai besoin d'une pause ». On dit par exemple « je suis désolé, ma mère a fait un AVC, je suis très inquiet, je dois vous quitter ». Ou bien « je suis désolé, je suis végane, je ne supporte pas la vue de ce gigot et de manière générale tout ce qui rappelle la souffrance animale, ce n'est pas contre vous, je suis hypersensible, excusez-moi. » On ne dit pas « j'ai besoin d'une pause » sans rien derrière, sans rien autour. Pourquoi le couple, fût-il dans une passe délicate, ne requerrait-il pas les mêmes règles de bienséance qu'un repas chez des amis amateurs de gigots ? Qu'est-ce que j'ai fait pour susciter un besoin de pause aussi pressant et abrupt ? Depuis 38 jours tourne en boucle une somme d'hypothèses et je me repasse le film de nos derniers mois. À quel moment a-t-elle basculé en mode pause ? Qu'ai-je fait de particulièrement posifère ? Peut-être ne faut-il jamais être soi dans l'intimité si l'on veut qu'une relation dure comme au premier jour. Persévérer à exhiber l'appartement témoin contre vents et marées. Se contenter de montrer la vitrine. Le jour où l'on ouvre la porte de l'arrière-boutique, on crée un appel d'air et tout s'envole comme un tas de feuilles posées sur un bureau.
Voilà pour cet extrait du discours de Fabrice Caro et un premier avis sur ce livre, Clémence Pouletti.
Je suis complètement fan et je voulais dire l'absurde cette fois au service de la lucidité mélancolique.
Raphaël Léris.
Un hymne charmant aux inadaptés de l'existence.
Ouais.
C'est commenté en direct par Clémence Pouletti.
Ah oui.
On met Grégoire le Ménager.
Écoutez, je ne savais pas qu'un chagrin d'amour pouvait être aussi drôle. Et d'ailleurs, franchement, moi, je rigole encore. Là.
Ouais. Bah oui, hein, parce qu'on ouvre à n'importe quelle page. Et le charme de la folie hilarante opère. Qu'est-ce qu'on va dire de plus sur ce livre, Clémence Pouletti?
On va dire que l'idée de faire rire avec ses névroses me plaît beaucoup. J'aime beaucoup Fab Caro, Fabrice Caro ici. Et par contre, on utilise effectivement cet adjectif de drôle, mais je n'ai pas tellement ri. En
ah bon
oui.
Ah oulala, on est très inquiets.
Évidemment, j'ai souri, évidemment, par moments j'ai ri. Mais en fait, je trouve que c'est un livre qui est très triste. Très, très triste. Et c'est assez amusant parce que j'ai assisté à une rencontre avec Fabrice Caro dans une librairie parisienne au moment de la sortie du livre. Et je me souviens que tout le monde parlait de cet humour dans le livre. Et moi, je lui ai dit, mais je comprends pas pourquoi tout le monde dit que c'est drôle. Moi, j'ai pleuré en lisant le livre. Je le trouve triste. Et il a dit, ah, merci, enfin quelqu'un qui me comprend. Et c'est vrai qu'à la suite de ça, on a discuté. Adrien, c'est la somme de toutes nos peurs. Le narrateur, oui, Adrien, le narrateur, qui donc vient de se faire poser par Sonia, parce que je crois encore leur histoire, je ne veux pas dire ni larguer, ni... Non, posé par Sonia, il est la somme de toutes nos peurs, enfin, cette idée, il a peur de terminer seul, comme il l'écrit, il a peur de ne jamais retrouver l'amour, il est au fond du gouffre, il m'a fait penser à ce personnage, au narrateur de Requin, de Bertrand Belin, le premier roman de Bertrand Belin,
musicien
lyotien, oui, un autre de mes chouchous, oui, parce que, alors, dans Requin, c'est un homme qui est lui aussi au bord du gouffre, il est sur le point de se noyer, il est en train de se noyer, et dans sa noyade, il nous raconte sa dernière histoire d'amour, sa plus grande histoire d'amour. Là, c'est pareil. Adrien, il est au bord du gouffre. Il va peut-être avoir à écrire un discours pour des gens qui, finalement, il ne connaît pas, même s'il s'agit de sa sœur et de son beau-frère. Il raconte toutes ses problèmes relationnels avec les autres. Et il nous raconte son histoire d'amour avec Sonia. J'ai été tellement émue, tellement touchée. Et si j'ai ri, c'était justement parce que j'ai été émue et touchée. J'aime avoir ressenti autant d'empathie pour un personnage. Et c'est à ce moment-là, un peu comme les personnages de Jean Rochefort d'ailleurs, qui me font rire.
Et y a des livres qui vous font rire, pour savoir un peu lesquels.
Les bandes dessinées de Fab Caro me font rire.
D'accord, mais en littérature.
En littérature, c'est drôle.
Vous riez peu.
C'est drôle. Il n'y a pas si longtemps, j'ai envoyé un message à pas mal de mes contacts en leur disant « Dis-moi un titre de livre qui te fait rire.
Oui. »
Parce que c'est vrai que j'en ai peu.
Ouais. Vous allez en trouver un exemple, hein, le temps que continue à circuler.
Si celui-là vous fait pas rire, vraiment, je ne vois pas quoi vous.
C'est toi, on t'inquiète.
Évidemment, il y a l'extrait qu'on vient d'écouter, il y a beaucoup d'humour,
non,
beaucoup de second degré. Où... Ah, mais oui, ben non. Ben...
Les stylos du Bénin.
Non,
oui,
mais
même
le génie des stylos
d'orange pour soigner la
dépression. Oui, le jus d'orange. Bah, justement, mais moi j'ai trouvé ça triste.
De quoi on parle, bah, lisez le discours.
Non, mais le jus d'orange, la mère qui conseille à son fils qui est en pleine dépression existentielle de boire du jus d'orange, moi je trouve ça d'une tristesse abyssale.
Mais on peut rire en pleurant.
Ah oui, pourquoi pas. Mais c'est ce que je vous disais, c'est parce que j'ai un peu pleurniché que j'ai souri aussi.
Raphaël Léris.
Alors en venant, j'ai essayé de trouver un point sur lequel scrogner un peu.
Dans le camp des méchants.
pour faire partie du camp des méchants. Non, j'ai essayé.
À vous maintenant.
Je me suis dit, je suis sûre qu'on va trouver ça formidable. Essayons d'introduire un brin de dissension là-dessus. Et je me suis dit, bon, il y a un côté français moyen dans la famille d'Adrien, où il manque pas le crépi, pas les meubles en contreplaqué, la chenille du mariage. Il y a vraiment la panoplie totale. Sauf que là où vraiment je n'arrive pas à penser du mal de Fab Caro, c'est que sur ces éléments très attendus, stéréotypés, etc., lui permettent de broder du burlesque en permanence. C'est-à-dire que la chenille devient un truc mondial et métaphysique complètement délirant. Le contreplaqué, enfin, il y a un meuble en contreplaqué qui est un thème récurrent, un objet récurrent du texte. Et donc, je trouve ça formidable de prendre un peu une famille, la famille de la... petite classe moyenne telle que on l'imagine sans donner beaucoup d'efforts et de réussir à partir de stéréotypes à faire quelque chose d'aussi imaginatif et burlesque. Donc c'était vraiment c'était pas du tout une...
Non, vous n'êtes pas dans le camp des méchants.
Non, je suis pas dans le camp des méchants.
Et j'ai bien peur que ce ne soit pas le cas non plus de Grégoire le Ménager.
Non, j'y arrive pas non plus.
Non.
Pourtant, je suis quelqu'un de méchant naturellement, mais là, j'ai été attendri par... par le rire. Non, ça fonctionne très bien. Et dès le début, ça marche. Puisque ce soir, là, on compare les livres à des chanteurs. Moi, je vais y aller aussi.
Attention.
Non, moi, ça m'a rappelé les âneries, les pitreries que peut faire Vincent Delerme sur scène quelquefois.
Mais oui, mais parce que moi, j'ai pensé à une autre chanson de Vincent Delerme qui s'appelle Danser sur la table, sur ces gens très sensibles qui ne veulent pas se mettre en avant et qui sont pourtant obligés de faire partie du monde.
Oui, il y a un peu les connaissances de deuxième zone, toutes ces choses-là, et puis avec les systèmes de voix off qu'il utilise sur scène, et là on a l'impression d'entendre une voix off de Vincent Delerme, mais qui aurait lu Cioran quand même. C'est-à-dire que la phrase clé, elle est au milieu du livre, c'est une phrase de Cioran. Je crois que Cioran saurait tout indiquer. Une seule chose importe, apprendre à être perdant. Et ce type est un loser, mais intégral. Et c'est pour ça d'ailleurs que
elle va repleurer.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il peut nous dire des horreurs sur sa famille.
Sur lui dit Vincent Delerme, après elle sourit.
C'est pour ça qu'il peut nous dire des horreurs sur sa famille et tout ça. C'est parce que lui-même en fait partie de ce monde. Il est englué dedans, comme nous tous, nous sommes englués dans les milieux sociaux où nous évoluons et qui ont tous leurs ridicules et leurs travers. Et tout ça, il en parle très bien. Et avec une tension qui est liée au fait qu'il a envoyé un SMS et qu'il reçoit pas de réponse à ce SMS, et le motif revient en permanence, et on sent bien toute la douleur du qu'on peut éprouver dans le cas d'un chagrin d'amour auquel il donne des proportions homériques, et burlesque en même temps. C'est formidable, il faut absolument lire ça.
Bon, alors que je ne serais pas dans le camp des méchants, parce que je reprends le livre et je l'ouvre à n'importe quelle page, et ce que je trouve, c'est qu'il est formidablement écrit. Enfin, oui. C'est un vrai styliste. Il a un sens de la rupture, un sens de l'image, de la métaphore, de la comparaison. Enfin, vraiment, c'est de l'orfèvrerie aussi, ce livre de Fabrice Caro. Je crois que vous n'avez pas insisté sur ce point, donc je me permets de le faire. Mais c'est vrai que je reprends chacune des pages, et je trouve des inventions. Et ça, c'est quand même tout à fait stupéfiant d'arriver à avoir cette inventivité, alors qu'il peut avoir en quatre cases quand il fait ses planches qui sont heureusement souvent réunies ensuite en album. Il a un sens de la concision extrême quand il est auteur de bande dessinée. Mais moi, c'est le premier livre de Fabrice Caro que j'ai lu. Enfin, il en a écrit un autre avant, donc je vais me précipiter pour le lire. Vous l'avez sans doute lu, Clémence Pouletti, avant.
Oui.
Et alors, il est bien aussi?
Il est très bien aussi. Bon,
il faut tout lire.
Oui, il faut lire tout Fab Caro.
Ouais, mais alors, même si c'est pas très à la mode aujourd'hui, quand vous disiez les dépressifs, ça fait pas rire. Moi, je pense au vieux Woody Allen. Oh là là, attention, j'ai prononcé le nom qu'il fallait pas. Mais il y a quand même quelque chose comme ça, quoi, l'espèce de. Quand, ça revient souvent aussi. Je ne vais pas trop divulgâcher, mais le fait de. Pour ses 30 ans, regarder les gendarmes Saint-Tropez assis sur le canapé entre papa et maman, voilà, c'est quand même. La consternation totale pour ce pauvre individu.
C'est la définition de la dépression.
Oui, absolument.
Effectivement,
et il brode là-dessus assez longtemps, mais il le fait avec une inventivité renouvelée. Raphaël Héris, vous lui direz quelque chose. Non, je ne sais pas, vous penchez sur ce micro pour me, me soutenir dans mon évocation de Woody Allen, peut-être.
Soutenir, oui, dans la chorégraphie familiale, oui, il y a quelque chose de Woody Allen dans le fait d'avoir tous ces rôles qui sont attribués, qui se rejouent en permanence, et ça n'en rend pas moins fou, c'est ça qui est génial.
Non, puis stylistiquement, il y a quelque chose qui est très efficace et qui fonctionne, qui fait de l'humour, c'est la confrontation de mots très abstraits, très conceptuels. Voilà, je vais vous donner la définition de la dépression, et puis nous dire, la définition de la dépression, c'est d'être dans un canapé, à 30 ans, à regarder le gendarme de Saint-Tropez avec ses parents. Et il y a toute une théorie sur le. Je vous invite à évaluer votre propre couple à l'aune du barème BIL, donc le détail, page 164, le fonctionnement, qui permet de savoir si deux êtres peuvent vivre un parfait amour, si et seulement si leurs coordonnées sont semblables. Et voilà, je vous invite à voir ça. Et
faire
là aussi,
ce test.
Il y a quelque chose de très théorique, de très fumeux, de très conceptuel, mais très, très concret en même temps.
Beaucoup de raisons de lire ce mode d'emploi pour nos vies, qui est Le Discours de Fabrice Caro, édité en poche chez Folio. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, Lola Schiller nous a rejoint, qui va d'abord nous rappeler la question du jeudi soir et nous donner sa réponse.
Dans quelle série pour adolescents Moïses Arias, un des acteurs principaux de Monos d'Alejandro Landes, se fait-il connaître? Et la réponse est Anna Montana.
C'est pas le même genre, hein. Monos, on va en parler demain soir. Ce soir, on fait des invitations pour le spectacle Girls and Boys de Denis Kelly, mis en scène par Chloé Dabert. C'est à l'atelier de la comédie, Centre Dramatique National de Reims. Des places à gagner pour le vendredi 13 mars à 20h. Quelle est la question?
Qui signe la scénographie de ce spectacle?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucine Como, Boris Pinault et Lola Schindler. Prise de son ce soir, Ludovic Auger. Réalisation Alexandre Fougeron. Demain, dispute cinéma, donc à 19h. Je serai avec Corinne Rondeau, Lucille Como et Philippe Azoury. Nous parlerons de Monos, d'Alejandro Landes, de Si c'était de l'amour, de Patrick Chia. Il y aura un coup de cœur de Corinne Rondeau pour une nouvelle maison d'édition, les éditions M, consacrée évidemment au cinéma. Et le journal de la dispute de Lucille Como s'ouvrira à la page des biopics. Les biopics sont-ils toujours ratés ?